Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous sommes le 19 septembre 2020. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bon week-end, car c'est l'essentiel. Bienvenue sur RMC. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, le samedi et les dimanches, de 6h à 10h, c'est le week-end des experts. Les meilleurs experts de France sont à mes côtés. Ils répondent à vos questions. On évoque évidemment tous les sujets qui les concernent, qui leur concernent. Et encore une fois, vous allez voir aujourd'hui, ça va être passionnant. Tout à l'heure, entre 9h et 10h, avec Raphaël Grabli, on évoquera les montres connectées et notamment cette nouvelle génération de montres connectées qui peuvent, dans certains cas, sauver la vie de ceux qui les portent. On rentrera dans les détails tout à l'heure, c'est hallucinant. Dans notre rendez-vous Forme Santé avec Christian Eka, on fera le point sur les aliments qui permettent de faire le plein de calcium. Très important, le calcium. Et puis, on parlera aussi de la myopie chez l'enfant. Tout à l'heure, dans la maison, avec Christian Pessé, autre sujet, on évoquera les caves à vin. Comment bien conserver le vin à la maison? Comment bien choisir sa cave à vin? Quelles sont les astuces? Christian Pessé nous dira tout. Et puis, on évoquera aussi les précautions à prendre avant d'acheter dans l'ancien. Tiens, si vous vous apprêtez peut-être à investir. Et puis, vous le savez, pour débuter, toujours, chaque samedi, entre 6h et 7h, c'est le jardin. Et c'est avec Patrick Mulan qui m'accompagne. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue au jardin qui a toujours chaud et qui a toujours soif et qui aura peut-être un peu d'eau cette semaine.
Eh oui, en ce 19 septembre, c'est incroyable. Hein.
Ah là oui.
On a vécu des journées estivales un peu partout en France d'ailleurs.
Ce matin, 5h du matin, 21 degrés. En banlieue parisienne.
Et alors qu'on devrait avoir quoi, 15 quoi.
Ben on avait 14 hier, c'est ça que j'ai pas compris.
C'est ça. Oui, c'est dingue. Avec de grosses amplitudes de température cette semaine. Moi, un matin très tôt, il faisait frais. Et on avait 30.
Oui, vous avez 15 degrés
plus de 30 dans la journée. On fera le point tout à l'heure de tout cela avec la météo du jardinier. Visiblement, ça change un petit peu, hein, Patrick.
Bon, on va
c'est normal, hein, c'est inéluctable.
Que l'automne, c'est officiellement mardi.
Oui,
donc il va falloir penser quand même à changer de saison.
On fera le point. Dans quelques instants, vous saurez tout sur les cyclamens. Ce sera notre dossier de ce samedi.
C'est la fleur du moment. Vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'en ai mis quelques-uns dans le jardin. Là, ça vous fait un éclat de couleur. Boum ! Oh, c'est un plaisir.
Et puis, on fera un point aussi sur votre coup de gueule de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe chez les pépiniéristes, Patrick ?
Ce n'est pas les pépiniéristes. On va leur imposer aussi bien qu'aux jardineries d'indiquer la toxicité éventuelle de la plante. Mais ça, pour ça, notre gouvernement a dressé une liste dans laquelle il y a des trucs un peu bizarres et surtout, il y a pas mal de manques. Donc, est-ce que c'est utile de dire aux gens, par exemple, que le laurier rose est toxique alors que personne ne va avoir l'idée de manger ça, quoi.
Donc, oui.
Alors, on peut, peut-être c'est bien, mais ça va encore créer un environnement anxiogène. On a l'impression qu'on a envie de faire peur à la population, que ce soit avec le virus, que ce soit avec n'importe quoi. On n'arrête pas de dire attention, c'est grave, machin. Et cette histoire de principe de précaution, franchement, ça commence à m'exaspérer.
Bon, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il fallait indiquer si telle ou telle plante pouvait être dangereuse?
La raison, c'est
dangereuse.
Peut-être éventuellement, il y a un risque.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on détaillera tout ça tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle que, bien sûr, en ce samedi, nous sommes en direct. Vous voulez joindre Patrick Mulan? Profitez-en. 3216, le standard. L'appli RMC Direct Studio, votre numéro de téléphone avec votre message pour qu'on puisse vous rappeler. On y va, bienvenue à vous toutes et à vous tous, et on attaque avec Valentin qui nous attend. Valentin au 32-16, bonjour Valentin.
Bonjour.
Bonjour Valentin, bienvenue.
Valentin de Nîmes.
C'est ça, Bernis.
Pardon ?
Bernis. Nîmes, Bernis, c'est 11 km, c'est pareil. C'est...
Ah d'accord, ok, pas loin donc. Valentin, bien réveillé, ça va ? Gilles vous a sorti du lit ce matin pour être avec nous ?
C'est ça.
Bon, ben oui, il est gentil, hein, Gilles. C'est son seul défaut, c'est qu'il appelle les auditeurs très très tôt le samedi et le dimanche matin. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Vous savez que parfois il se fait insulter, hein. Je vais vous le dire. Parfois, non, Valentin, ça se voit tout de suite que vous êtes quelqu'un d'élégance, smart, etc. Mais parfois on lui raccroche au nez. Valentin, on vous écoute. Patrick est là. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes parents qui ont acheté une maison là à Bernis. Et avec des beaux palmiers tout dans le jardin. Puis, en fait, il y a des papillons qui attaque les paniers. Et du coup, on ne peut plus rien faire du panier, il faut le couper.
Et oui, il meurt, en fait, c'est ça.
Il meurt. Mmh. Et en fait, il vient, il pose des nids, il pose des nids dans le tronc. Et puis après, ça fait des papillons. Et puis ces papillons, ils attaquent les arbres et ils les détruisent.
Alors, ce n'est pas les papillons qui attaquent les arbres, c'est leur larves, c'est-à-dire donc leurs chenilles. C'est un phénomène qui commence à être très 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 bien connu et qui malheureusement ne fait que s'étendre dans la région méditerranéenne. Donc on a deux ravageurs d'ailleurs qui font à peu près le même type de dégâts. Le papillon dont vous parlez, qui s'appelle Pesandisia archon, qui est un papillon qui a été introduit d'Amérique du Sud il y a maintenant presque une vingtaine d'années, et qui est un grand et beau papillon orange et marron. Et donc, ces larves, ces chenilles, vont ronger le cœur du palmier, c'est-à-dire à l'extrémité, au milieu du bouquet de feuilles, et c'est par là que grandit le palmier, et donc les dégâts sont extrêmement graves. Le deuxième ravageur qui fait absolument les mêmes dégâts, et dont les larves d'ailleurs peuvent être confondues plus ou moins, est Rhynchophorus ferrugineus, attention, accrochez-vous, donc on appelle le charançon rouge du palmier, et qui est peut-être encore plus virulent. Ces deux ravageurs peuvent se traiter efficacement au niveau du jardinier amateur avec des nématodes. Que sont les nématodes ? Ce sont des vers minuscules, microscopiques on va dire, dont là aussi les larves s'attaquent aux larves. Donc c'est une sorte de cycle. Alors que les larves des ravageurs mangent votre plante, eh bien les larves de nématodes viennent parasiter ces insectes. Et ces nématodes qu'on appelle Steinernema carpocapsae, ah, je suis désolé, hein, les noms sont absolument infernaux.
Oui, ça me jure.
Mais bon, on le trouve sous le nom de Palmalife aussi, hein, c'est peut-être plus facile de se rappeler. Donc ce sont donc des produits biologiques que l'on va mélanger avec de l'eau. En fait, on en met environ, on s'en rend pas compte, hein, c'est comme de la poudre, mais il y a à peu près 2 millions, 2 millions et demi de nématodes par dose. Et il est important de le travailler en préventif, c'est-à-dire qu'il faut protéger les palmiers qui ne sont pas encore attaqués. En curatif, c'est-à-dire lorsque vous voyez les débuts de l'infestation, vous pouvez aussi traiter avec une dose qui peut être triple, jusqu'à 6 millions de nématodes pour le Pesandisia. Donc, dans le cas des photos que vous m'avez envoyées, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et il faut évidemment, avant toute intervention, s'assurer que le palmier est toujours vivant. C'est-à-dire qu'il doit y avoir encore des feuilles un petit peu vertes, donner l'impression que le cœur n'est pas complètement détruit. Parce que si, par exemple, quand vous tirez sur une palme au niveau du cœur, eh bien, elle vient toute seule, ça veut dire que le palmier, il est pratiquement condamné à mort. Et ça ne sert à rien d'effectuer un traitement. Sachez que dans toute la région méditerranéenne, il y a aujourd'hui des organisations professionnelles qui se sont développées pour lutter contre ces ravageurs du palmier. Et il peut être intéressant de faire appel à eux, déjà au départ pour un diagnostic, c'est-à-dire déjà de voir sur l'ensemble des palmiers que vous avez dans votre propriété, ceux qui sont vraiment fichus et qu'il va falloir éliminer. Et il faut les éliminer pour retirer le foyer d'infestation, parce que n'oubliez pas que la problématique, c'est si vous traitez vous et que vos voisins ne traitent pas ou vice-versa, bah, de toute façon, vous laissez le foyer.
Ça va revenir.
Donc, il faut aussi se dire que la lutte est obligatoire. Normalement, quand on a décelé la présence d'un de ces deux ravageurs, on doit obligatoirement mettre en place un système de lutte, justement, pour éviter ces foyers. Donc, moi, je pense que vous auriez intérêt à rechercher localement un professionnel agréé pour la lutte des ravageurs du palmier, déjà pour avoir un diagnostic, et ensuite voir s'il y a moyen de sauver certains, et peut-être même que les professionnels qui n'ont pas les mêmes... Enfin, ils ont une panoplie beaucoup plus large que la nôtre pour pouvoir sauver vos palmiers. Donc peut-être qu'ils peuvent agir de façon plus efficace. Et ça, c'est un conseil que je donne pour tout le monde, parce que c'est vraiment un vrai fléau.
Ah ben,
vous l'avez vu aussi en Corse, François, des magnifiques palmiers.
C'est d'une tristesse.
Ah oui, bien entendu.
C'est d'une tristesse. Il y a des palmiers qui étaient là depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont condamnés. Et c'est horrible. On se retrouve avec des troncs, alors que le palmier, en plus, est un arbre magnifique. Oui. Et c'est une hécatombe, hein, en Corse notamment, en Corse, mais sur toute la Côte d'Azur, c'est terrible.
Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre en charge le traitement et, si possible, quand même faire appel à des professionnels, parce que franchement, ils sont plus compétents que nous, de toute façon, par définition.
Et essayer de détecter le mal très tôt, le plus tôt possible.
Exactement.
C'est ça aussi la clé. Il est 6h17. Valentin, merci hein, pour votre appel en tout cas. Tiens, juste une petite question pour compléter ce que disait Valentin. Il faut qu'il aille voir quoi, un jardinier, un pépiniériste là. Comment ça se passe?
Non, il faut regarder sur l'internet.
Ouais.
Demander des spécialistes des traitements des palmiers.
D'accord.
Et locaux, il y a aussi des associations de professionnels qui sont faites. Donc même si vous le trouvez pas directement, vous allez voir cette association.
Et eux ont le matériel qu'il faut.
Non, ils vous donneront l'adresse du professionnel agréé le plus proche de chez vous.
D'accord. Bon, après il faut voir combien ça coûte. À mon avis, c'est pas donné cette histoire-là.
Alors évidemment, ça coûte. Mais après, faut savoir quelle est la valeur patrimoniale.
Bien sûr,
du palmier.
C'est-à-dire
que vous parliez de palmiers qui ont 50 ans.
Oui.
C'est sûr que même si on vous dit il faut dépenser 1000 euros pour le sauver, ça vaut peut-être quand même le coup.
Ça vaut peut-être le coup, en effet. Allez, on enchaîne maintenant avec le conseil de Patrick de ce samedi.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC. L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et on va parler des graines et des semences, Patrick. Tiens, peut-être première question. Est-ce que toutes les plantes produisent des graines?
Non, vous avez des plantes qui ne produisent pas de graines. Par exemple, les fougères, les mousses, les algues, ce sont pas les prêles, ce sont des plantes que l'on appelle des cryptogames, donc qui ne donnent pas de graines et qui font des spores. Les plantes à graines sont les spermatophytes. Alors ça a l'air bizarre comme nom, mais si on décortique, on a sperma qui veut dire graine et phytos qui veut dire plante, donc plante à graines, et donc qui réunissent d'un côté ce que l'on appelle les gymnospermes, c'est-à-dire en gros les conifères, et puis les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Donc d'une manière générale, la graine est le produit de la fécondation d'une fleur.
D'accord. Et comment se forment ces graines, Patrick ?
Eh bien justement, une fois que le grain de pollen, donc qui est la partie mâle, s'est déposé sur le pistil, il va pénétrer par ce qu'on appelle le style, c'est-à-dire le tube pollinique, quoi, pour aller féconder l'ovule. Et après fécondation de l'ovule, eh bien, on va avoir un fruit qui assure la protection des graines et qui en même temps accumule des réserves pour permettre au futur embryon de se développer. Donc, la graine est un élément fondamental, mais qui demande beaucoup d'énergie à la plante, puisque on va voir cette accumulation de réserves. Donc, la graine est la partie qui va être capable de donner naissance à un nouvel individu. Ce n'est pas la seule partie. Par exemple, les bulbes de tulipes sont aussi des éléments de ce qu'on appelle la diaspore, c'est-à-dire la partie qui permet la reproduction de la plante. Le rhizome, le stolon, tout ça, ce sont des éléments comme la graine, mais la graine, c'est l'élément sexué.
Quelles sont les plantes, Patrick, que l'on peut facilement propager en récoltant leurs propres semences?
Alors,
il y en a beaucoup.
Bien entendu, il y en a énormément, mais il ne faut pas forcément récolter tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, tiens, on va prendre une pomme. Si vous, c'est quoi les graines dans la pomme?
C'est-à-dire?
Quand vous avez une pomme, où sont les graines?
À l'intérieur.
C'est-à-dire, ce sont les pépins.
Oui.
Hein, les pépins de la pomme, ce sont les graines. Si vous semez des pépins, est-ce que vous allez avoir exactement le même pommier qu'avant?
Aucune idée. Sincèrement, je ne sais pas, Patrick. Vous avez le savoir, pas moi.
Eh bien, pas du tout. Pourquoi vous n'aurez pas le même pommier? Parce que la fleur du pommier n'est pas ce qu'on appelle l'autogame, c'est qu'elle n'est pas capable de s'auto-féconder. Il faut qu'un insecte prenne le pollen sur une autre variété.
Et vienne le déposer.
Mais ça veut dire donc, variété X plus variété Y égale une hybridation, un croisement. Alors quand on entend le mot hybridation, on dit « oh, j'aime pas ». Non, 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 non. L'hybridation est un phénomène absolument naturel. Vous-même, moi, vous, François, nous sommes des hybrides. Des hybrides du croisement de votre mère et de votre père. Eh bien, dans les plantes, c'est la même chose. En revanche, vous en avez, et ça, c'est pas le cas chez les animaux, ou du moins les animaux évolués, qui sont capables de s'auto-féconder. Donc, quand la plante prend son propre pollen pour mettre sur son propre pistil, vous avez exactement la même plante que les parents. Eh bien, ça, vous l'avez, notamment au potager, chez l'aubergine, chez le haricot, la laitue, la mâche, le piment, le pois, la tomate, par exemple. Et puis, pour les agriculteurs, toutes les céréales sont autogames, et donc on peut réutiliser leurs propres semences en étant quasiment certain d'obtenir des plantes fixées. Alors, c'est pas toujours le cas. Parce que si vous êtes parti d'un hybride, par exemple, vous prenez une tomate hybride, F1, F1, ça veut dire la première génération, comme nous. Vous êtes la première génération de vos parents. Bon, et ben si vous multipliez cette tomate hybride, vous allez avoir les lois de Mendel qui s'appliquent, à savoir que 50% de la population qui va arriver sera différente de la plante mère.
D'accord.
Parce que elle aura les caractères récessifs, c'est-à-dire les caractères anciens des précédents parents.
D'accord.
Et donc, plus vous allez aller dans des générations suivantes, et plus ça va se disséminer. Donc, il faut faire assez attention, par exemple, que les tomates que vous allez multiplier soient bien des variétés fixées. Par exemple, la tomate marmande de base, ou les vieilles tomates, comme par exemple l'andine cornue, vous prenez les graines, vous aurez des andines cornues ou des marmandes. En revanche, pyrose, par exemple, qui est un hybride F1, si vous prenez les graines, ben, vous n'aurez pas pyrose. Voilà.
Comment doit-on effectuer pour récolter les graines, Patrick ?
Ben, il faut déjà, on vient de l'expliquer plus ou moins, éviter une fécondation accidentelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir... Si vous avez des tomates, par exemple, qui sont très proches les unes des autres, avec plein de variétés différentes, il y a un peu de risque, parce qu'elles vont pouvoir se croiser. Donc il faut que les pieds soient bien séparés, être sûr que vous avez bien la variété. Donc on va séparer les variétés, et puis il faut bien entendu, attendre la maturité optimale. Donc on va récolter les graines par temps sec, à maturité bien complète, et puis les sécher, les trier, et puis ensuite, vous pourrez les semer au printemps.
Alors, ce qui est dingue, c'est que ces graines peuvent, pour certaines, se conserver des centaines, voire des milliers d'années.
Alors ça, c'est pour quelques plantes extraordinaires, comme par exemple les lotus, ou par exemple certains palmiers. Des lotus, on en a fait germer qui avaient pratiquement 10 000 ans.
C'est dingue.
Bon, alors, les conditions de conservation,
oui, devaient être exceptionnelles, etc. Oui, bien sûr.
D'une manière générale, si vous récoltez vos propres graines pour le potager, le mieux, c'est vous les récoltez maintenant, vous les semez l'année prochaine. Plus vous allez les conserver longtemps, et plus vous allez avoir une déperdition dans ce qu'on appelle la faculté germinative, c'est-à-dire la proportion de graines à germer.
Donc idéalement d'une saison sur l'autre.
L'idéal, c'est une saison sur l'autre.
D'accord. Est-ce que vous connaissez un livre qui peut nous donner des conseils justement sur la production de graines ?
Bah écoutez, j'en ai apporté un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui s'appelle carrément « Produire ses semences potagères » de Christian Dudouet et Victor Renaud. C'est chez Campagne et compagnie. C'est la deuxième édition. Franchement, c'est très très simple. C'est bien illustré. On vous donne exactement tout pour le stockage. Combien la graine va pouvoir durer de temps, le temps de germination, etc. J'aime bien ce livre. Donc, je le rappelle, produire ses semences potagères, c'est extrêmement pratique chez Campagne et compagnie.
Eh bien voilà, c'est avec ce conseil que nous allons arrêter là ce sujet sur les graines et les semences. On va revenir dans un instant, Patrick, sur les cyclamens, qui est la fleur incontournable du moment. Vous allez tout nous dire sur ce sujet. Et puis je vous rappelle que, bien évidemment, à tout moment, vous pouvez prendre la parole, poser vos questions, réagir au sujet que nous évoquons. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est votre jardin. Patrick Meudan est là jusqu'à 7h. À tout de suite.
RMC,
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Fais-moi une fleur. Fais-moi éclore. Au bord d'un parterre de cyclamen.
Patrick Mulan.
Eh bien, dites-moi.
De cyclamen, de clame-ci, qui regrette.
Comme quoi,
on va endormir tous nos auditeurs.
Le cyclamen a inspiré quand même des artistes.
Majeurs.
Voilà, je j'osais pas le dire, mais majeurs, c'est ça aussi. En tout cas, bienvenue, hein, si vous venez d'arriver sur RMC, vous écoutez ces musiques improbables. C'est fait exprès, c'est signé Kevin. Le 32-16, si vous voulez poser vos questions à Patrick, on va évoquer les cyclamen. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez des questions particulières, profitez-en. Dès maintenant, dépêchez-vous. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas.
Alors, cette saison.
Oui, voilà, c'est la fleur incontournable du moment. Ça marque aussi le début de l'automne, hein, on est d'accord, le cyclamen.
Oui, le Colchic, c'est qui ça. Est la fin de l'été, dans la fameuse chanson, et puis le cyclamen, qui est le début de l'automne, on va dire.
Alors, avant toute chose, deux mots peut-être de botanique sur le genre cyclamen, Patrick.
Genre cyclamen, donc 19 espèces de plantes qui sont toutes plus ou moins originaires du bassin méditerranéen, ou on va dire du Moyen-Orient, et qui sont de la famille des primes vertes, c'est-à-dire donc des primulacées.
D'accord. Et d'où vient ce nom bizarre? Bon, c'est joli, hein, cyclamen, mais ça vient d'où?
Alors, c'est assez rare que l'on ait un nom vernaculaire identique au nom botanique. Ce nom, cyclamen, a été donné à la plante par le fameux Carl von Linné, suédois, en 1753. Et ça dérive du grec, hein, c'est souvent le cas dans la botanique. Et cuclos veut dire cercle. Alors, on pense que Linné s'est inspiré de deux choses. D'abord, peut-être la forme ronde et aplatie du tubercule des cyclamens, et puis peut-être encore plus les pédoncules floraux. Alors ça, regardez bien, c'est très rigolo à voir. Lorsque la fleur du cyclamen se termine, eh bien vous voyez le pédoncule floral qui commence à s'enrouler en forme de crosse, et le fruit qui va être globuleux, qui va au bout. Et donc il se recourbe comme ça, donc il forme un petit cercle.
D'accord.
Et donc cuclos cyclamen.
Est-ce que l'on peut rencontrer des cyclamens sauvages en France, tiens, par exemple?
Eh ben oui, plus que l'on pense d'ailleurs, hein, puisque vous avez un cyclamen d'Europe, qui est cyclamen purpurascens. Alors on l'appelle aussi amulette. Alors on l'appelle, la plupart des cyclamens de nos régions, on les appelle pain de pourceau. Pourquoi pain de pourceau? Mais parce que les tubercules sont vraiment appréciés des sangliers et des cochons.
Ah oui.
Alors, ces cyclamens sauvages, on les voit généralement dans des sols légèrement calcaires, plutôt en sous-bois. Ça forme des très très jolis tapis. Donc, il y a celui-là, donc purpurascens. Vous pouvez avoir aussi le cyclamen edérifolium, le cyclamen à feuilles de lierre, qui est aussi rustique. Et même celui dont on va parler maintenant, le cyclamen de Perse, qui, dans le bassin méditerranéen, se naturalise très bien.
Alors, le cyclamen de Perse, qui est, on va dire, le plus populaire, hein.
Oui. Alors, le plus populaire, parce que on a créé une multitude d'hybrides. Le cyclamen de Perse lui-même de base, je pense qu'on le trouve pratiquement plus. Et d'ailleurs, il faut se dire que les cyclamens que vous rencontrez dans la nature sont quasiment des plantes protégées. Dans beaucoup de régions, on ne doit pas du tout les toucher, les arracher. Donc, quand vous voulez des cyclamens, vous les achetez dans une jardinerie, vous les arrachez pas dans la nature.
Patrick, le cyclamen, intérieur, extérieur?
Eh bien les deux, mon capitaine.
D'accord.
Alors, en intérieur, on prend plutôt les grands cyclamens, ceux qui vont faire une trentaine de centimètres de hauteur, qui ont des grosses feuilles, des grosses fleurs aussi de 5-6 centimètres de long. Ce ne sont pas exactement des plantes d'intérieur. Dans la maison, ils ont un peu trop chaud. Donc l'idéal, ça serait de les mettre dans une pièce qui n'est pas trop chauffée. En cette saison, comme on ne chauffe pas encore, ça peut aller bien. Il faut que ça soit assez aéré. Et puis, petit à petit dans la saison, parce que vous allez en trouver dans les jardineries jusqu'à la fin de l'hiver, pratiquement des cyclamens, essayez surtout de faire baisser la température durant la nuit d'environ 5 degrés. Ça leur fera le plus grand bien.
Est-ce que ces mini-cyclamens vont tenir longtemps dehors ou pas?
Alors, les mini-cyclamens, ce sont ceux qu'on met dehors.
Mmh.
J'en ai pas encore parlé. Et ce sont des sélections qui maintenant ont une bonne grosse dizaine d'années et qui sont vraiment très très intéressants. Ceux-là, c'est même pas la peine d'essayer de les cultiver dans la maison. Ils sont pas faits pour ça. En revanche, à l'extérieur, ils vont tenir en fleurs jusque pratiquement 0 degré. Au niveau de la résistance même au froid, on va dire qu'un petit moins 3... pas pendant trop longtemps, ça peut tenir le coup.
Faire.
Donc, par exemple, il suffit aussi, en écoutant bien la météo, de mettre une cloche ou un voile de protection le soir pour avoir une floraison qui va durer longtemps, longtemps, longtemps. On a eu, ça j'aime bien rappeler cette anecdote-là, j'avais acheté un petit cyclamen dans un tout petit pot de 5 cm de diamètre, je crois que j'avais payé 1 euro ou un truc comme ça. Il a fleuri 3 mois de suite, vous c'est imaginez génial. La rentabilité de la plante.
Super.
Parce qu'on l'avait mis sur une fenêtre à l'extérieur, un peu abrité.
Mm-hmm. Il avait un peu de lumière.
Ah non, il avait de la lumière, évidemment. Hein. Alors, ce n'est pas une plante, d'ailleurs, de plein soleil. Hein.
C'est plutôt mi-ombre.
Oui, parce que ça pousse toujours sous le couvert d'un sous-bois. Ouais. Mais franchement, faites-vous un petit plaisir. Achetez même un seul pot, là, en ce moment.
Oui, voilà.
Vous allez voir, c'est formidable.
Alors, Patrick, justement, je vais dans une jardinerie. Je veux acheter un petit pot de cyclamen. Comment je peux choisir ? Est-ce que vous avez des conseils ?
Oui, alors, il faut que la plante soit bien ferme, bien ronde. Le cyclamen hybride, il est globuleux. Sa végétation, d'ailleurs, déborde le pot et vous avez au milieu les fleurs qui sortent. Donc, il faut qu'il y ait des fleurs, mais aussi, regardez bien qu'il y ait pas mal de boutons. Parce que ça veut dire que la plante, elle est très costaud, elle est en bonne santé. Les feuilles doivent être aussi bien dessinées. N'oubliez pas une chose, il y a des cyclamens, même s'ils fleurissent plus, rien que les feuilles, c'est véritablement un tableau d'artiste. Et toutes les variétés sont différentes. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour avoir un effet de tapis très décoratif pendant l'hiver, parce qu'en fait, il va garder son feuillage. Si on a un hiver aussi doux que celui de l'année dernière, vous aurez de nouveau des cyclamens. Nous, on n'a rien perdu l'année dernière.
D'accord.
Alors, ce qui peut vous faire perdre vos cyclamens, c'est un excès d'humidité. Attention, pas trop d'eau, c'est d'accord. Une plante à tubercule. Mm-hmm. Donc, il vaut mieux qu'il manque un peu d'eau plutôt que d'être complètement noyé, parce que là, à ce moment-là, il y a une moisissure qui se forme, qu'on appelle le botrytis, la pourriture grise, et qui vous détruit votre cyclamen alors en très peu de temps.
C'est pas évident d'arroser un cyclamen, non ?
Non, puisqu'en fait, vous avez les feuilles qui débordent de tout.
Mais
donc,
oui.
En fait, si vous arrosez par-dessus, vous allez
oui, ça favoriser fait un peu comme un parapluie, quoi.
Alors, la pluie, oui, mais même vous allez favoriser aussi cette stagnation de l'eau. Mm. Le mieux, c'est de tremper le pot.
Tout simplement.
Voilà. Alors, si vous l'avez planté dans une grande jardinière, vous arrosez autour, simplement. Sachez quand même que les racines,
oui,
elles ont tendance à se disperser, propager. Mais restent pas juste au pied.
Très bien. Pour terminer, est-ce qu'il existe un cyclamen que je peux planter durablement dans le jardin, cette fois-ci?
Oui, alors, même deux, on va dire. Il y en a un qui fleurit en plein hiver, c'est le cyclamen Koum, hein, qu'on appelle aussi le cyclamen de l'île de Kos, donc il fleurit de décembre à mars. Il y en a des roses, des blancs, des rouges. D'ailleurs, la seule critique que l'on pourrait avoir par rapport au cyclamen, c'est qu'on est toujours dans la même déclinaison de couleurs, entre le blanc et une sorte de rouge violacé. Mmh. Vous n'avez pas de vrai bleu, vous n'avez pas de jaune, vous n'avez pas d'orange et vous n'avez pas de rouge style géranium. Et puis vous avez le cyclamen de Naples, le cyclamen à feuilles de lierre, donc cyclamen Ederifolium, qui est une petite vivace vraiment sympa et qui a tendance vraiment, vraiment à se naturaliser quand elle se plaît. Donc plutôt sol très humifère, légèrement calcaire. Et la floraison, elle dure d'août à octobre. Alors, c'est tout petit, bien entendu. Il faut en mettre plein, plein, plein. Mais quand ils veulent, je peux vous dire, c'est sublime.
Et bien voilà pour le cyclamen. Il est 6h37 sur RMC. Dans un instant, on va retrouver la météo du jardinier. Mais dans l'immédiat, c'est Christophe que l'on retrouve au 32-16. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour Christophe, bienvenue.
Merci, merci de me recevoir. En fait, moi, j'avais une question qui est hors sujet. En fait, c'est par rapport aux avocats.
Oui.
Il s'avère que j'ai planté plusieurs avocats, enfin juste comme ça, des noyaux. Quand on mange un avocat comme ça, je récupérais les noyaux et je les mettais directement en terre. Et normalement, à peu près un an après, ils ont poussé. Ils sont sortis, ils ont poussé. Et maintenant, ils font entre 1,20 m et pour le plus gros, il a largement dépassé les 2,30 m. Et par contre, je n'ai jamais réussi à avoir de fruits. Et je voulais savoir, en fait, comment on...
Alors déjà, il faudrait savoir, est-ce que vous avez eu des fleurs?
Non.
Alors, tant que vous n'aurez pas de fleurs, de toute façon, vous n'aurez pas de fruits. Alors, bon, en même temps, il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire qu'un avocat de 1 mètre de haut, ce n'est pas encore un arbre. Hein. Il faut quand même que la plante arrive à atteindre une certaine maturité. D'autant plus que, à partir d'un semis, généralement, on va dire, il faut bien une dizaine, une douzaine d'années avant que l'avocat puisse atteindre justement cette maturité sexuelle, former des fleurs et vous donner éventuellement des fruits. Vous êtes dans quelle région ?
Je suis dans le midi toulousain.
Oui, alors attention quand même aux hivers, hein, parce que...
Oui, je les rentre. Ouais.
Vous les rentrez, oui, donc vous n'aurez jamais la plante qui va réussir à atteindre son développement optimal. On obtient des avocats vraiment sur la Côte d'Azur. Et je pense que c'est la limite septentrionale de la production possible d'avocats. Je sais qu'il y a quelques personnes qui en ont aussi sur la côte atlantique, dans le sud de la côte atlantique, dans des endroits très très protégés. Alors après, sachez une chose aussi, c'est que l'avocat nécessite, lui, comme nos arbres fruitiers classiques, une fécondation croisée. Donc il faut avoir au moins deux pieds de variétés différentes pour que vous puissiez avoir donc le pollen qui fertilise les pistils des fleurs, mais en attendant, de toute façon, il faut les fleurs. Donc, exposition très abritée, éviter le vent dominant, maximum de lumière pendant toute la belle saison, puis effectivement, en hiver, il va falloir l'abriter. Ça peut tenir pratiquement à 0 degré, il ne faut pas qu'il y ait tout 0 degré trop longtemps, mais il sera mieux. Votre avocat, on va dire, dans une véranda ou une serre froide, avec, on va dire, entre 5 et 15 degrés, ou 5 et 12 degrés la nuit, et puis jusqu'à 20, 22 degrés dans la journée avec l'effet de serre, que dans la maison où vous avez 18, 20 degrés toute la journée et la nuit, parce qu'il a besoin aussi, pour induire sa floraison, comme toutes les plantes, d'avoir des écarts de température entre le jour et la nuit.
Oui, d'accord. Et si justement, vous avez répondu à une question que j'allais vous poser, justement, c'était savoir comment on pouvait justement arriver, s'ils avaient besoin d'être donc plusieurs pour la fécondation.
Oui, c'est indispensable. Ça fait énormément de fleurs, les avocats, il y en a très très peu qui sont fertiles, donc ça aussi, on peut avoir... une certaine déception en voyant une floraison, puis après vous allez avoir deux avocats, mais c'est aussi normal. Un avocat, c'est quand même un gros arbre. Donc, pour qu'on ait une grosse production, il faut que le plant soit mature au maximum. Et quand on les cultive en pot, de toute façon, ils n'atteindront jamais la dimension qu'ils peuvent avoir dans leur pays
d'origine. On peut avoir de bons avocats quand même avec un avocatier en pot ?
En fruits ? Je crains que non.
D'accord.
Non, on a vraiment des très très belles productions fruitières d'avocats dans la région de Menton, dans les régions très très abritées, quasiment subtropicales qu'on a sur la Côte d'Azur. Peut-être d'ailleurs en Corse, je sais pas, mais je crois qu'on doit pouvoir aussi au bord de mer en Corse avoir des avocats.
Voilà Christophe.
D'accord, mais je vous remercie.
Et c'est déjà bien de les avoir fait pousser comme ça, de les avoir grands. Attention aux cochenilles en hiver aussi.
Ah.
Oui, ça, oui. Je m'en méfie, et j'avais remarqué qu'ils étaient sensibles, et en traitant les autres plantes en général, et ils ont droit aussi.
Christophe, bonne journée, merci de nous avoir appelé.
Merci pareillement, très bon week-end.
À bientôt, et vous voyez Christophe a appelé le 3216, en tout cas il nous a même contacté pour être précis via Direct Studio. Avec son smartphone, il nous a posé la question, il nous a laissé son numéro de téléphone et on l'a rappelé dans les minutes qui ont suivi. Donc vous pouvez, tout comme Christophe, nous joindre via Direct Studio, ça marche. Sophie sera avec nous dans un instant, elle va nous parler de son bégonia dragon.
Oui.
Patrick.
ne vous inquiétez pas.
Non, il crache pas des flammes, pas. Celui-ci.
Sa couleur crache des flammes.
Oui, voilà. Eh ben, on va en parler dans un instant avec Sophie. On va retrouver la météo du jardinier. Coup de cœur, coup de gueule de Patrick. Et puis, peut-être qu'on aura le temps... d'avoir encore une question. Donc, profitez-en, appelez-nous, 3216, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
Jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 7h moins le quart. Un grand bonjour à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC tranquillement. C'est vrai que c'est le week-end. En tout cas, merci d'être là. C'est le week-end des experts, le jardin jusqu'à 7h avec Patrick. Et juste après, ce sera la maison avec Christian Pessé. La météo du jardinier dans un petit instant. Mais auparavant, on accueille Sophie au 3216.
Bonjour.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie, bienvenue.
Merci. Bon, moi j'ai un souci de bégonia dragon.
Oui.
J'ai fait une grosse bêtise. C'est-à-dire, j'ai acheté cette plante qui était magnifique. Et comme je m'absentais, donc je l'ai laissée dehors, sous... l'arrosage automatique. Et je pense qu'il n'a pas apprécié du tout. Donc, les feuilles se sont mises à... avec le soleil et l'eau, parce qu'il a été arrosé copieusement tous les jours. Donc, il n'a pas aimé du tout. Ça l'a fait à moitié mourir. Donc, je vous ai envoyé des photos. Là, il commence à repartir. Donc, je pense qu'il va repartir vraiment du pied et que l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Et j'ai le souci de savoir, cet hiver, j'en fais quoi ? Parce que j'ai lu qu'il fallait les déterrer, laisser sécher le bulbe et les remettre au printemps en terre. Et ma voisine me dit qu'il faut l'emballer généreusement et le laisser sur place. Donc, j'ai besoin de vos conseils.
Bah, il ne faut pas confondre les bégonias dragons avec les bégonias tubéreux. Hein. Le bégonia dragon, c'est un hybride de bégonia Semper Florens. Ça forme pas vraiment de tubercule. Généralement, on les cultive en annuel. Alors, même si on va dire qu'au départ, c'est une vivace herbacée, mais c'est pas du tout comme le bégonia tuber hybrida, c'est-à-dire donc le bégonia hybride tubéreux qui fait un gros tubercule qu'on va garder au sec, etc. On a un mal de chien à garder les bégonias dragons en hiver. Moi, vraiment, le conseil que je vous donnerais, ça serait de faire des boutures. Alors ça se bouture relativement bien dans l'eau. Vous pouvez prendre des jeunes tiges et puis les mettre dans un verre d'eau. Et une fois que les racines se sont développées, vous les replantez. À ce moment-là, ces jeunes sujets-là, vous les gardez en hiver, près d'une fenêtre, etc., pour qu'ils aient de la lumière, pas trop trop chaud. Et puis, vous les aurez pour l'année prochaine. Mais d'une manière générale, on les appelle Red Wing, hein, aussi, ces bégonias, on les cultive comme des annuels. Donc, d'accord, dans votre cas, et ça, je voudrais insister là-dessus, on fait beaucoup, beaucoup plus facilement périr un bégonia par un excès que par un manque d'eau. Et vous dites, il a été arrosé tous les jours, c'est vrai qu'il a fait chaud, mais c'était la meilleure façon de le faire crever. Et peut-être, alors moi j'ai pas pu voir vos photos, elles sont arrivées trop tard, mais souvent on a de l'oïdium et du botrytis quand on arrose de trop les bégonias. Et ça, effectivement, ça peut sérieusement les abîmer. Alors, pourquoi je vous dis de les garder plutôt sous forme de bouture? Parce que les pieds mères, c'est pas du tout évident de les conserver pendant la mauvaise saison. Alors, vous pouvez toujours tenter le coup, vous arrachez avec la motte, et là, il ne faut pas essayer de remettre les racines à nu, non, vous arrachez la motte entière, vous le mettez dans un pot, vous pouvez retailler effectivement un petit peu les parties qui ont été abîmées, etc. Et vous allez le mettre plutôt, je dirais, dans une véranda si on peut, ou dans une pièce qui ne sera pas trop chauffée. C'est-à-dire que l'idéal en hiver, c'est d'avoir, on va dire, entre 14 et 18 degrés, avec toujours la même chose que ce que je disais précédemment pour l'avocat, c'est d'avoir une différence de température marquée, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5 degrés, entre le jour et la nuit. Et donc, d'accord, je rappelle vraiment que limiter l'arrosage, il vaut mieux que la plante vous donne la sensation qu'elle a soif. Alors attention, hein. Les symptômes sont exactement les mêmes entre une plante qui est trop arrosée et une plante qui a soif. C'est-à-dire qu'elle se flétrit. Mais en général, on sait si on a arrosé ou pas. Donc si on n'a pas arrosé depuis quelques jours et qu'on voit la plante qui commence à baisser du nez, là on sait qu'elle a besoin d'eau. En revanche, quand on arrose beaucoup et qu'on voit effectivement qu'elle flétrit, on se dit peut-être qu'elle n'a pas eu assez d'eau, on en remet, là on aggrave le problème. Donc ça, c'est vraiment la base pour réussir ce type de bégonia. Et après, vous pouvez en faire des suspensions, bien entendu, si vous avez envie, pour l'année prochaine. C'est une plante qui a tendance à avoir un feuillage et des tiges grêles. Donc tout ça, ça représente de façon très, très jolie.
On est d'accord, c'est magnifique.
Voilà, Sophie.
Eh bien, bonne chance, faites des boutures et puis vous nous direz comment ça a fonctionné.
Ok.
Voilà, et faites attention aux dragons.
C'est la saison hein, pour faire les boutures, c'est le moment.
Ah ben, je vais m'y mettre dès aujourd'hui.
Ben alors, bonne chance.
À bientôt, merci Sophie, beaucoup. Et merci de nous avoir appelés. Au revoir. Tiens, on parlait tout à l'heure des avocats. Pas mal de réactions. Janine qui nous dit, dans le Roussillon, j'ai des avocats qui poussent.
Oui, mais le Roussillon, c'est aussi oui, bord de la Méditerranée.
Bien sûr, bien sûr. Et puis à Menton, justement, il y a Sonny, notre auditeur fidèle, qui nous dit, qui nous confirme qu'il a beaucoup d'avocats à Menton. Mais ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais franchement, Menton.
Mais oui, à Menton, il y a tout qui pousse.
Mais c'est ahurissant, c'est-à-dire que vous. J'ai découvert des jardins à Menton oui, dans lesquels il y a des plantes que je voyais à Sri Lanka, en Thaïlande, en Malaisie, enfin voilà, dans des endroits où vous imaginez pas que le climat est similaire à celui de Menton, quoi.
Oui, 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 il y a aussi Beaulieu-sur-Mer, hein, qui oui, est un lieu très, très réputé avec un climat quasi tropical tout au long de l'année. 6h51, la météo du jardinier maintenant, Patrick. On va, comme chaque semaine, jeter un œil sur les cartes de Météo France pour les jours qui viennent et voir l'impact que ça peut avoir sur notre jardin.
Alors, à partir de demain, il va commencer à y avoir des dégradations orageuses qui vont commencer au début du Massif central et vers les Alpes, et puis s'étendre petit à petit vers le nord, jusqu'à la Normandie, les Pays de Loire. Et on va avoir cette problématique orageuse avec des vents plutôt calmes, assez faibles, irréguliers, etc., mais pendant toute la semaine. Je vous rappelle qu'officiellement, l'automne arrivera mardi 22 à 15h30 et 38 secondes exactement, puisque vous voulez de la précision, mon cher François.
Oui.
Et donc, on aura, pendant toute cette semaine, orage de l'Aquitaine aux Pyrénées à la Méditerranée, avec des maximales qui seront assez stationnaires, autour de 21 à 26 degrés selon les régions. Et en revanche, des minimales qui vont baisser petit à petit, on va dire pratiquement, on va perdre 1 à 2 degrés chaque jour, pour arriver vers la fin de semaine à être en dessous de 10 degrés. Du côté de l'Amiénois ou de la Champagne, vendredi, on devrait avoir un 9 degrés sous abri. Donc, l'automne arrive.
L'automne arrive.
L'automne arrive et la pluie aussi.
On annonce puisque... du 13 degrés fin de semaine à Paris, hein, maximum.
Voilà. Alors oui, pour moi, je suis pas allé jusqu'à samedi, puisque en fait.
Même jeudi. Hein,
bah, jeudi sur Paris, moi, j'avais plutôt 10 à 20 degrés.
Ouais, écoutez, j'ai l'impression que ça va baisser plus vite que prévu. Hein. Enfin bon.
Moi. Alors c'est possible parce que ça change tout le temps, mais on va dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une semaine qui est peut-être pas une grande semaine jardinière, mais une semaine très bénéfique pour le jardin. Donc laissez bien la terre et les plantes s'imbiber, profiter de cette eau dont elles ont manqué depuis longtemps, de façon à ce que ensuite le sol soit plus souple et que vous puissiez réaliser toutes les préparations du sol que vous aurez besoin de faire en automne. Et puis c'est quand même le moment des récoltes, et essayez justement à l'inverse de récolter avant que les pluies arrivent, de façon à pouvoir conserver plus longtemps aussi bien les fruits que les légumes que vous allez récolter.
Voilà, bon bah écoute, on repart, on va dire, dans une saison à peu près normale pour l'instant, en tout cas. Hein. Patrick, c'est plutôt positif.
Là c'est très très bien.
Parce que les jardins ont souffert ces derniers temps.
Hein, énormément, donc il faut espérer quand même que cette pluie orageuse ne va pas être trop violente et que ça va pouvoir vraiment rentrer, percoler tranquillement. Alors tiens, petit conseil de base, mais important, biner, écoutez la météo. Si on vous dit, dans votre coin, il va pleuvoir bientôt, je bine, donc je décroute la terre, et là, l'eau va rentrer au lieu de ruisseler. Et ça, c'est très très bon pour le jardin.
Patrick, on va terminer ce week-end des experts jardins par vos coups de cœur et on va commencer par les journées du patrimoine.
Oui, alors évidemment, là c'est les journées du patrimoine, c'est assez, on va dire, bouleversé. Il y a des endroits qui ont dû fermer, il y a des endroits qui vont ouvrir. Côté jardin, comme on n'avait pas eu la fête des jardins qu'on a toujours au début du mois de juin, et bien là il y a des jardins qui ouvrent aussi, ça va être quand même très très bien. Je voudrais mettre en exergue, il y a une fête des plantes magnifique ce week-end à Chaumont-sur-Loire au niveau de la fête des jardins, mais il y a aussi plein de pépiniéristes qui viennent, ça va être super, avec aussi une conférence à 15h aujourd'hui sur les mycorhizes, qui sera très très intéressante. C'est ouvert à tout le monde. Mmh. Il y a aussi le salon du livre du jardin. Ça, c'est au domaine d'Orvès. C'est dans le sud. Et il y aura des pépiniéristes très très réputés, dont Jean Mus. Et puis, je voulais faire ce coup de gueule, donc qui m'avait été inspiré par le dirigeant de Promesses de Fleurs, Pascal Griot, qui m'a informé de ça. Donc, le 4 septembre dernier, le journal officiel a publié que À partir de juillet 2021, tous les pépiniéristes et jardineries seront tenus sur la fiche de présentation de leurs plantes d'expliquer le danger potentiel sur une centaine de plantes. Alors bien sûr, vous avez des plantes très très dangereuses, comme les colchiques, les daturas, les ricins, même les digitales, même le laurier rose. Là, on pourrait dire attention par rapport aux enfants, etc.
Mais sur ça veut dire qu'on aura sur l'étiquette qui décrit en fait la plante un avertissement.
Oui, c'est on ça vous dira cette plante est toxique.
Est toxique.
Alors le problème de ça, c'est on ne sait pas trop comment ça va être encore. Est-ce qu'on va mettre une tête de mort? Est-ce qu'on va mettre, comme sur les paquets de cigarettes, planté tu? Oui. Je ne sais pas. Hein. Donc, faut quand même être un peu limite. Bon, il y aura aussi toutes les plantes qui ont potentiellement des réactions cutanées, allergisantes.
Bon, ça, c'est normal.
Oui, mais enfin, attendez. Là-dedans, vous avez les phyllos. Vous avez les pothos. Vous avez les caladiums. Des spatifilums, donc des aracées, qu'on cultive depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Il n'y a jamais eu de problème important.
Hyper dangereux, quoi. Enfin, bon, voilà. Et puis, vous avez aussi les allergènes. Tous les arbres qui peuvent éventuellement, et ça, vous êtes un sujet majeur là-dessus, mon cher François, donc, donner des allergies. Donc, on va dire, attention, ça aussi, c'est dangereux. Mm-hmm. Bon. Mais en revanche, tout n'a pas été cité, parce qu'on vous dit, par exemple, dans les allergènes, on vous oblige à châtaignier et le peuplier, qui sont très, très importants. Donc, voilà. Bon. C'est pas une mauvaise idée, simplement, encore une fois,
bah, il faut voir comment c'est présenté, en fait.
Non, mais en plus, moi, je suis agacé par le principe de précaution. Mmh. On nous bloque tout, simplement, parce que peut-être qu'éventuellement, il y a un risque. Attendez, dans la vie, le simple fait de respirer, c'est un risque. Hein. Donc, voilà, surtout en ce moment.
C'est pour ça qu'il faut mettre un masque. Et d'ailleurs, le masque de Christian PC est superbe, il est associé à sa chemise.
Vous avez remarqué, hein,
là. Un bel orange. On voit que la Fashion Week se prépare.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez,
non, on le voit bien.
Je suis l'un des acteurs majeurs depuis des décennies.
On le voit bien. Patrick, à la semaine prochaine.
Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière aussi, ma petite perle, et je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, notre mannequin Christian PC prend l'antenne dans un instant.
Dans quelques minutes.
Avec des précautions à prendre avant d'acheter dans l'ancien. Ah oui, ça sera votre conseil. Et puis on parlera de cave à vin.
Eh ben, on va parler de cave à vin parce que ça passe en plein en ce moment, les foires au vin dans les grandes surfaces alimentaire, donc
voilà, maintenant
on va s'intéresser à savoir si on n'a pas de cave, donc dans une maison ancienne, bon, il y a les armoires à vin, on en parlera, mais est-ce qu'on peut implanter une cave dans une maison qui n'en a pas?
Eh bien, ça sera dans un instant. Toutes vos questions sur ce sujet dès maintenant, 32-16, la Pierre MC Direct Studio, même sur l'immobilier ancien, hein. On revient après la météo et les infos, à tout de suite.